Qu'est-ce que tu racontes?
Había una vez una historia.
Hey, what you say?
Sos que penaftou prala. Yek paramisha.
Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Qu'est-ce que tu racontes? Une émission sur l'oralité, les contes, les légendes et aussi des interviews, des questionnements, des reportages.
Qu'est-ce que tu racontes? Votre émission de contes. Quoi, qu'est-ce que tu racontes?
Bonjour.
Et bonjour à toutes et à tous.
Et aujourd'hui, nous avons eu le grand plaisir de trouver Michael avec nous.
Eh oui.
Ça faisait longtemps.
Ça fait longtemps que tu es revenu.
Ça fait un petit mois maintenant.
Ah, déjà?
Ah, bon, ah, oui. Comment t'as pas vu?
Tu étais déjà en vacances?
J'étais caché.
Et puis, à l'arrière, qui continue de travailler parce qu'il faut mettre un coup avant les vacances, nous avons Juju.
Je suis planqué.
Eh bien oui, il en faut des planqués.
Et plaisir de vous retrouver toutes et tous. Aujourd'hui, au studio, il y a un air de vacances. Hein. Ça trie, ça fait le ménage, ça répertorie,
ça entasse. Comment, l'air de vacances?
Hein?
Vas-y, chante l'air de vacances.
Non, ben, tu le feras. Voyez, c'est les vacances.
Ah, le taquin.
Ben, on va continuer. Comme on a bien commencé, avec notre parole, il n'y a pas tellement d'infos, si ce n'est... En compte, eh bien, pour la fin de vos vacances, Vassivière, parole de conteur, qui sera Pierre Fitt cette année. C'est une petite semaine. Voilà, ça tape des mains derrière. Ça met. Donc, il y a plein à aller voir sur parole de conteur, festival de conte, Vassivière aussi. Il y a différentes appellations. Toutes les belles personnes qui sont là.
Du 21 au 28 août
c'est
cette année. Même.
Et cette année, si vous voulez nous rejoindre sur le festival, samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24, nous ouvrons à 22h30, après les spectacles, un concours de menterie.
Alors, menteur...
Menteuse.
Menteur et menteuse, vous pouvez venir.
Et il faut dire le jeu, il faut croire à son histoire et... Que le public se dise c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a un jury et puis il y aura une petite reine au roi des menteurs. Et le titre sera remis en jeu le mercredi soir pour la reine des reines ou le roi des rois des menteurs. Le mardi, oui, le quatrième soir. Voilà. Enfin voilà, prenez contact avec le festival et puis tout est dessus. Ou bien sur ma page Facebook aussi, Armelle Oudigan. Voilà, c'était coup de pub pour les conteurs de France.
Voilà.
Merci Radio Dynamo.
De rien. On est là pour ça.
Tu es menteur toi aussi?
Merci.
Oui, des fois.
Voilà.
Ça fait du bien de mentir, hein, des fois. C'est parti.
Je suis prête, ouais. Voilà longtemps, bien longtemps, c'était en Bohême. Il n'y avait pas un étang, il n'y avait pas un ruisseau, pas une rivière qui n'abritait son Honda. Étrange génie des eaux, ils aimaient être dans l'eau près des habitations des hommes. On trouvait parmi eux des génies bienveillants et des bonheurs, qui même se liaient d'amitié avec les hommes et vivaient en bonne entente avec eux. Certains de ceux-là avaient même pris l'habitude d'accompagner les voisins à l'auberge où ils aidaient les femmes dès qu'ils le pouvaient au lavoir. Mais, il faut le dire, des ondins malveillants et parfois même très méchants étaient de loin les plus nombreux. Ceux-là, il s'évertuait à jouer les plus mauvais tours aux gens, cherchant constamment à leur nuire. Et si l'occasion se présentait, il n'hésitait pas à les entraîner sous l'eau pour les noyer. Leur maison, située dans un coin tranquille au fond de l'eau, abritait de nombreuses étagères, sur laquelle étaient soigneusement alignés des petits pots en faïence qui renfermaient les âmes des malheureux noyés. Il y avait, paraît-il, un endroit que les ondins préféraient à tout autre, c'était le voisinage des moulins à eau. À ce propos, on raconte qu'un meunier, dont le moulin était situé sur la rivière, en a fait la triste expérience. L'ondin, qui habitait au pied de son moulin, n'était pas bien beau. De petite taille, pas plus haut qu'un garçonnet de 13 ans, tout maigrelet et voûté à la fois, le teint jaune. Il avait de gros yeux marrons, sûrement hérités d'une grenouille, et une drôle de chevelure hirsute jaune paille. Mais, en dépit de son physique peu avenant, il était, ma foi, toujours joliment habillé et parait avec beaucoup de soin. Souvent, il portait un manteau vert orné de boutons dorés, de petites bottes retroussées d'un rouge vif, et il était coiffé d'un chapeau vert autour duquel il nouait un long ruban rouge orné d'un petit bouquet de fleurs d'eau. Mais bien sûr, il s'appliquait à faire au meunier tout ce qu'il pouvait imaginer de pire. La nuit, par exemple, il allait dans son champ lui voler des petits pois ou des pommes de terre. Une fois, le meunier l'a surpris sur le fait et il s'apprête à lui frotter l'échine quand, en un rien de temps, l'ondin s'est transformé en cheval noir, à la queue de paille qui trépignait, se cabrait, crachait le feu par ses naseaux. Tant et si bien que le meunier, effrayé, a détalé, il est rentré chez lui. Toujours à la nuit, l'ondin s'amuse à venir hanter le moulin et s'y promène, de bas en haut et de long en large, en frappant des pieds, cognant sur tout ce qui lui tombe dans les mains, et même il fait tourner la roue. Le meunier et sa famille ne peuvent pas fermer l'œil de la nuit. D'autres fois, en plein jour, quand le meunier s'affaire et que tous au moulin ne savent plus comment faire pour satisfaire ceux qui attendent avec impatience leur sac de farine, l'ondin ferme les vannes du bief et ne laisse plus passer une seule goutte. Le pauvre meunier ne peut faire autrement que d'abandonner son travail sur le champ et de courir aussi vite que possible remonter les vannes en amont. Parfois l'ondin n'hésite même pas à s'introduire directement dans la cuisine de la meunière. Sur un ton plaintif et pleuré, il se met à la supplier de lui prêter un plat pour qu'il puisse faire cuire une carpe pour son déjeuner. La meunière voit d'un très mauvais œil ses visites, car partout où il va, l'eau goûte abondamment, son habit vert étant tout mouillé. Elle n'a plus qu'à essuyer ses flaques d'eau qu'il laisse derrière lui, et tout énervée, elle s'empresse de le chasser. Les malheurs du meunier ne s'arrêtent pourtant pas là. Il y a pire. Et le pire, c'est que le meunier et la meunière ont une jolie fille de 18 ans. Elle s'appelle Tereska. Elle a les yeux bleus comme les bleuets des champs, les cheveux dorés comme le lin, qu'elle tresse en deux grosses nattes. Ses joues sont aussi rouges qu'une pomme d'api. Et l'ondin en est éperdument amoureux. Tereska ne peut plus mettre le nez dehors sans aussitôt voir ce petit bonhomme vert sur ses talons et celui-ci de geindre et de demander « Ma petite Tereska, mon amour, deviens ma femme. Je vais t'emmener avec moi dans ma belle maison au fond de l'eau. Tu verras, tu t'y plairas à merveille. » Les poissons et toutes les écrevisses seront à ton service. Et moi, je te porterai dans mes bras. J'exaucerai n'importe quel vœu. N'importe quel vœu qui te passera par la tête. Je vais nouer à ton cou de beaux colliers de perles. Et sur ta tête, je mettrai un diadème sorti de pierres précieuses. Tu vas vivre chez moi comme une grande dame. Et jamais tu n'auras plus à travailler. Mais bien sûr, Tereska ne l'écoute pas. Comment a-t-il pu seulement oser imaginer qu'elle, Tereska, aurait envie de l'épouser, tout le temps dégoulinant d'eau. Autant que possible, elle le fuit. Et lorsqu'il devient par trop ennuyeux, et qu'elle a l'envie de le gifler, elle se retient et elle rentre dans sa chambre se cacher. Mais l'ondin ne se démonte pas. Elle revient toujours à la charge. Et ces derniers jours, il passe ses nuits à nouer de beaux rubans multicolores sur les saules. Et dans les roseaux qui poussent près du moulin, il espère que Tereska essaierait un jour de les attraper. Il espère qu'elle glisserait dans l'eau en se tendant pour les saisir, et ainsi il l'aura jamais à son pouvoir. Mais Tereska se méfie de tout, car elle sait que l'ondin est intraitable une fois sous l'eau. Et elle préfère passer au large de tous ses pièges. La famille ne sait plus quoi faire et désespère de ne jamais voir la fin des ennuis. Mais un jour, au crépuscule, un jeune compagnon se présente au moulin. C'est un fier gaillard, aux grands yeux sombres tout pétillants et aux cheveux bouclés, droits comme un pin. Il est botté de cuir, vêtu d'un pantalon à carreaux, un joli manteau et une chemise de toile écrue bien blanchie. Il a noué autour de son cou un foulard d'un beau rouge. Il porte en bandoulière un baluchon dans lequel il a glissé un joli violon. Au premier coup d'œil, on voit que ce compagnon-là a plus d'un tour dans son sac. D'ailleurs, dès que Tereska l'aperçoit, elle ne le quitte plus des yeux. Et lorsque le jeune homme tourne vers elle son beau regard sombre, elle rougit. Elle rougit aussitôt et court en toute hâte rejoindre sa mère dans la cuisine. Le compagnon salue respectueusement le meunier et demande aussitôt un ouvrage au moulin. Il explique qu'il fait son voyage d'apprenti d'un moulin à l'autre pour bien apprendre son métier et connaître les hommes avant d'acheter quelque part un moulin avec ses économies et de s'établir à son propre compte. Le meunier, en hochant la tête, lui dit « Ben, c'est sûr qu'au moulin, le travail ne manque jamais. Allez, entre. J'aurais vite fait de te trouver une besogne. Seulement, je crains que tu ne restes pas, que tu pars plus vite que tu le penses. » Le compagnon lui répond « Comment cela, maître ? Je ne vois pas ce qui m'empêcherait de rester aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. » Surtout que le jeune homme avait remarqué la charmante Tereska. Il lui plairait bien de s'installer par ici. Et le meunier lui dit « Mais vois-tu, nous avons ici un ondin. qui nous rend la vie impossible. Il s'est installé dans la rivière, dans le bief de mon moulin, et nous tourmente tant que nous ne savons plus comment faire. Le meunier fait récit de toutes les mésaventures. Le jeune gars écoute bien attentivement, et à la fin, il dit « Allez, cessez de vous tourmenter, maître. Vous verrez qu'on trouvera bien un moyen de venir à bout de ce gredin. Il lui en cluira de tendre des pièges à votre fille. Je le ferai déchanter plus vite qu'il ne pense. Tenez, cette nuit, je vais m'installer dans le moulin, et quand ce gnome viendra, je vais lui montrer, moi, de quel bois je me chauffe. » Et il a fait comme il a dit. La nuit tombée, le compagnon s'installe au moulin et se fait tant bien que mal une couche sur un simple lit de planches avec une couverture et son sac en guise d'oreiller. Le sommeil tarde, alors il prend son violon et joue doucement pour passer le temps. Et son jeu est si envoûtant que Tereska ne peut résister au désir de le rejoindre. Elle se hâte vers le moulin pour entendre de plus près cette belle musique. Les deux jeunes gens font connaissance l'un de l'autre, et quelques instants plus tard, ils parlent gaiement comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et lorsque le garçon plonge son beau regard noir dans les yeux de Tereska, leur cœur bat de plus en plus fort. Ils sont amoureux, amoureux l'un de l'autre. Tereska serait restée au moulin jusqu'au petit matin, mais il est plus sage qu'elle rentre chez elle. Au dehors, tout est calme. Seule la pleine lune brille dans toute sa splendeur. Le compagnon se glisse sous la couverture et comme le soleil commence à le gagner, il entend un grand fracas dans le moulin. Ça cogne, ça frappe, ça claque. Quelqu'un va et vient en traînant des pieds. Puis une voix criarde s'élève. « Ouhou ! Mais que fais-tu dans mon moulin, misérable ? Déguerpis de là immédiatement, sinon je vais te noyer !» Mais le compagnon n'est pas effrayé. Il descend du lit et lentement promène son regard autour de lui. Comme il voit tout avec la clarté de la lune, il ne tarde pas à remarquer un petit bonhomme vert qui se tient à quelques pas de lui, qui roule les yeux de grenouille et qui tend ses petits bras en balbutiant d'une voix géniarde. « Pour l'attraper, toutou, mon bon monsieur, toutou, tu ne m'impressionnes pas, mais puisque te voilà... » Assieds-toi donc, tu me tiendras compagnie. » Le compagnon s'installe, l'ondin à côté de lui, et tous deux commencent de parler. Le rusé jeune homme s'emploie aussitôt à délier la langue de l'ondin. Elle réussit à le mettre en confiance. Ça fait que l'autre finit par tout lui raconter. Avouant même qui voudrait prendre Tereska pour femme. Il explique qu'il a promis à la jeune fille monts et merveilles. Mais elle n'a pas répondu, elle le fuit. Qu'il met des beaux rubans pour l'attirer, mais elle ne les prend pas. Qu'il vient chaque soir sous sa fenêtre pour lui chanter des chansons d'amour mélancoliques. Mais elle ferme sa fenêtre, elle ne lui répond pas. Là, le compagnon lui dit... « De quelle manière tu t'y prends pour attendrir une jeune demoiselle ? Avec la voix que tu as, tu lui chantes des chansons tristes. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle se bouche les oreilles. Tu ferais mieux de lui jouer un petit air de violon. Elle aimerait ça et elle se jetterait dans ses bras. » Incrédule, l'ondin écoute les conseils du compagnon et bête comme il est ce gnome, il finit par y croire. « Tout cela est bien beau, mais seulement moi, je ne sais pas jouer du violon. C'est vrai que je t'ai entendu tout à l'heure. Tu en jouais, j'ai trouvé ton jeu fort beau. D'ailleurs, j'ai bien vu que Tereska n'arrêtais pas de t'écouter, tout émerveillée, et qu'elle est venue te rejoindre ici. Ah ben, si moi je savais jouer du violon. Dis, tu pourrais m'apprendre à jouer du violon? Et voilà. C'était exactement là où le compagnon voulait en venir. Bien entendu, il s'empresse d'acquiescer et propose à Londin de lui apprendre à jouer du violon sur le champ. Il lui montre d'abord comment tenir le violon et comment poser les doigts sur les cordes. Après avoir joué quelques puits d'air, il dit « Allez maintenant, à ton tour d'essayer. » Londin appuie le violon sous son menton. Mais hélas, il ne parvient pas à atteindre les cordes de ses doigts courts, terminés par des petites boules. Tout déconfit, il jette un regard au jeune homme. Comment faire? Ah, il me faudrait des mains semblables aux tiennes, longues, fines. Là, j'arriverai jamais à jouer du violon. Et Tereska ne sera jamais à moi. Et le jeune gars lui dit, c'est tout simple. Arrête de te plaindre. Je vais y remédier en un clin d'œil. Allez, viens. On va juste allonger un peu tes doigts. Et comme ça, tu joueras du violon encore mieux que moi. Le compagnon conduit Londin vers un solide étau en bois de chêne qui se trouve dans un coin du moulin et lui dit « Surtout, ne crains rien. Tu vas introduire tes doigts dans cette fente et je vais les étendre un peu. Cela ne te ferait pas mal. Oh, un peu, mais à peine. Mais tu sauras que pour... tu fais tout ça pour Tereska. » Le stupide et méchant Ondin glisse ses doigts entre les deux mâchoires et le compagnon se dépêche de les serrer bien fort. Comprenant enfin ce qui lui arrive, Londin se met à se tortiller, à mugir, à gémir. Mais le compagnon ne cède pas à lui aller. Tire, tire, il faut allonger tes doigts. Tire, tire. Ah, il t'en cuira, espèce de montre veste, de faire peur aux hommes, aux gens, de tendre des pièges à Tereska. Je ne te lâcherai plus. Je vais te ligoter maintenant avec une bonne corde et tu recevras une bonne rossée dont tu te souviendras. Londin pleure, pleurniche, crie et supplie le compagnon de le lâcher et lui promet en contrepartie toutes les richesses du monde. Mais le jeune gars lui dit « Ah, je te laisserai aller à la seule condition que tu me promets de ne jamais plus importuner le meunier, la meunière et Tereska et de quitter sur le champ le bief, la rivière et de t'en aller loin d'ici. » Que pouvait faire d'autre Londin? Voyant qu'il n'avait pas le choix, il finit par promettre tout ce que le gars lui demande. Il lui donne sa parole d'Ondin, qu'il laisserait désormais les habitants du moulin en paix. Et en effet, le temps passe, et personne n'entend plus parler de Londin. Ce qui fait la joie du meunier et de la meunière, mais la plus heureuse, c'est Tereska, qu'elle a réussi à convaincre son père de la promettre en mariage au jeune garçon. Le meunier se fait déjà vieux et comme il n'a pas de fils, ce serait parfait. Le jeune compagnon prend le moulin, il se marie et tout va bien. Et puis il connaît déjà bien le meunier. Alors bientôt, le compagnon devient le patron du moulin et Tereska, sa jeune épouse. Quelque temps après le mariage, alors que le nouveau meunier se promène au petit matin au bord de la rivière, il voit tout à coup la surface de l'eau se rider et quelques instants après, il apparaît une tête verte. Londin, car c'est bel et bien lui, il fixe le meunier de ses yeux de grenouille et coasse. « Je ne suis pas prêt d'oublier ce que tu m'as fait endurer, meunier. Tu verras. Un jour, tu glisseras quelque part au bord de l'eau et j'aurai vite fait de t'entraîner sous l'eau et d'enfermer ton âme dans un pot, là-bas, dans ma maison, tout au fond de la rivière. J'en ai déjà préparé un spécialement pour toi. » En entendant ces mots, le jeune meunier éclate de rire. Et c'est toujours, vilain monstre. Seulement, je te préviens, je prendrai mon violon avec moi. Et aussitôt arrivé chez toi, je reprendrai notre leçon. Aurais-tu déjà oublié le plaisir incroyable qu'il donne ? Dès que Londin entend pousser le mot violon, un frisson de terreur l'envahit. Il disparaît sous l'eau en poussant une longue plainte. Le souvenir de la première leçon de violon est tellement cuisant qu'il n'a pas envie de recommencer. Et il quitte sur le champ le moulin maudit. Et le même lui-même, le meunier, a vu sortir de l'eau un étrange attelage composé de 4 chats noirs qui traînent une petite collèche. Mené par Londin, entouré de tous ses biens. Londin a fait claquer un fouet et l'équipage a disparu aussitôt, comme si le vent l'avait emporté. Depuis ce jour, il n'est jamais revenu au moulin. Le meunier et sa belle épouse, ils vivent dans le bonheur et la tranquillité. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Merci beaucoup d'avoir écouté cette longue histoire qui est tirée d'un livre de chez Grunt, un vieux livre, Lac, Ondin et Rivière. C'est une légende de Bohème. Voilà, merci à Pepo pour son accompagnement. Et puis, merci à Michael d'avoir suivi. Et on le voit toucher sa manette. Pour avoir l'excellent réglage, il nous reste plus qu'à
juste à chaque fois.
Ouais, la juste. On est tranquille. Ben reste juste à te souhaiter, Michael, Juju et toute la radio de bonnes vacances. Hein.
Oui,
et puis à vous tous aussi qui nous écoutez. Hein. Bonnes vacances, profitez bien des rivières, des zones d'ombre. Écoutez, réécoutez toute la radio et tous les podcasts qu'ils vous préparent chaque année. Merci à vous, à très bientôt.
Merci Arbel Pepo.
Merci.
Vous venez d'écouter
Qu'est-ce que tu racontes?
À la semaine prochaine.